VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du 29 juillet 2015. Au sommaire ce soir.
La lutte contre les salafistes armés au cœur de la rencontre du président nigérian Muhammadu Buhari avec son homologue camerounais Paul Biya.
Conférence sur l'islam et la paix à Dakar. Le président sénégalais rejette les arguments religieux des auteurs d'actes terroristes.
Les services de renseignement afghans ont annoncé ce soir la mort du chef suprême des talibans, le mollah Omar.
Et Israël salue la libération prochaine du fameux espion juif américain Jonathan Pollard.
Mais dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Tout d'abord, le journal.
Le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivé ce mercredi au Cameroun, où il devait s'entretenir avec son homologue camerounais Paul Biya de la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Michel Joseph.
Muhammadu Buhari a été chaudement accueilli aujourd'hui à Yaoundé. Sur les murs de la ville, des portraits géants du président nigérian et de nombreuses banderoles ont été accrochées pour souhaiter la bienvenue à Muhammadu Buhari. Certaines faisant référence au Nigeria comme un allié sûr du Cameroun dans la guerre contre les islamistes. La lutte contre Boko Haram est au cœur des discussions. Le porte-parole de la présidence nigériane, Garba Shehu, a précisé que cette visite a pour but de construire une alliance régionale forte pour affronter Boko Haram. Les deux chefs d'État évoqueront également la force d'intervention conjointe multinationale dont le déploiement avait été annoncé d'ici au 30 juillet, mais qui semble prendre du retard. Cette force régionale a son siège à N'Djamena et doit compter 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. La visite du chef d'État nigérian, qui doit durer 24 heures, a été placé sous haute sécurité alors que le nord du Cameroun a été frappé par 5 attentats suicides meurtriers sans précédent en 2 semaines.
Et Nigeria toujours, Muhammadu Buhari a nommé un nouveau responsable à la tête du programme d'Amnesty dans la région pétrolière du Delta du Niger, où d'anciens rebelles ont menacé de reprendre les armes si leurs demandes n'étaient pas satisfaites. Cette région, d'où provient la grande majorité de l'or noir du premier producteur de pétrole africain, constitue l'autre grand dossier sécuritaire du président nigérian.
Au Niger, les autorités de Difa, dans le sud-est du pays, ont interdit aux femmes de porter le voile intégral par mesure de sécurité. Interrogé par l'AFP, Hankuraou Birikassoum, le maire de Difa, a dit vouloir prévenir les attentats kamikazes des islamistes de la secte Boko Haram.
Le président du Sénégal a rappelé au terme de la conférence sur l'islam et la paix à Dakar que les auteurs des attaques et autres actes terroristes ne respectent pas les prescrits de celui qu'ils croient servir. Suivons un extrait du discours de Macky Sall.
Ceux qui répandent la violence par leurs actes trahissent en vérité celui qu'ils prétendent servir. Car le commandement divin, tel que transmis successivement par la Torah, la Bible et le Coran a toujours prôné le bien, prohibé le mal et exalté la fraternité humaine. L'islam se veut une religion du juste milieu et de la paix. Et cette quête de paix en islam va bien au-delà de la simple absence de guerre. La paix, selon l'islam, c'est aussi la justice sociale et la solidarité.
C'était le président Macky Sall du Sénégal.
Madagascar se prépare pour les élections municipales vendredi prochain. Un scrutin test pour le président Herirajao Narimampiane, contesté depuis des mois et menacé de voir ses adversaires emporter la mairie de la capitale Antananarive. Quelques 1695 communes sont appelées à élire leurs maires et conseillers municipaux, mais le véritable enjeu se concentre à Antananarive, dont la mairie sert depuis des années de tremplin présidentiel et où la compétition présente un avant-goût d'élection présidentielle en vue de 2018. L'ancien président Marc Ravalomanane, revenu d'exil en fin 2014, tente de placer son épouse Lalao à la tête de la capitale.
En Afrique du Sud, la nouvelle réglementation sur l'immigration est sur la sellette. Il faut désormais déposer sa demande de visa en personne dans les consulats sud-africains. Ce qui pénalise le tourisme de façon inquiétante, a reconnu en personne le ministre du secteur. Selon l'Agence nationale des statistiques d'Afrique du Sud, le nombre de touristes chinois a diminué de 38% au premier trimestre 2015 et de 13% pour les touristes indiens. Cette nouvelle réglementation est très problématique dans les pays très vastes, car les voyageurs doivent parcourir des centaines de kilomètres, voire plus, pour déposer leur dossier à Pékin ou à Bombay.
Au Kenya, le rapport annuel du vérificateur général est un véritable pavé dans la mare. À peine 1,2% des dépenses du gouvernement kenyan ont été faites conformément à la loi et de manière efficace. Ce rapport de 361 pages détaille à l'envi malversation, gaspillage d'argent public et laisse entrevoir des pratiques de corruption à grande échelle au sein de l'administration kenyane. Il y a 3 jours, lors de sa visite dans le pays, le président américain Barack Obama avait dénoncé la corruption qui gangrène le Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les services de renseignement afghans ont annoncé ce soir la mort du chef suprême des talibans, le Mollah Omar. Il est décédé, selon eux, il y a plus de 2 ans dans un hôpital de Karachi, au Pakistan. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le Mollah Omar est mort en avril 2013 dans des circonstances mystérieuses, a dit à l'AFP Hassib Siddiqui, le porte-parole des services secrets afghans. Il fait suite aux rumeurs persistantes faisant état du décès du guide des talibans. Ces derniers n'ont officiellement ni confirmé ni démenti la mort du Mollah Omar. Il n'a pas été vu en public depuis 2001 et son mutisme pèse sur une rébellion divisée au moment où elle commence à rencontrer le gouvernement afghan en vue de négociations de paix. Depuis 2001 et au fil d'un conflit sanglant dont l'intensité ne faiblit pas, des rumeurs non confirmées ont régulièrement fait état de la mort du chef taliban qui a, selon des sources concordantes, trouvé refuge au Pakistan voisin après la chute de son régime.
La Turquie maintient la pression militaire sur les Kurdes du nord de l'Irak, arguant que cela fait partie de la lutte contre la terreur. Des avions turcs ont bombardé les positions du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ce mercredi, quelques heures après que le président Recep Tayyip Erdogan eut déclaré qu'il était impossible de poursuivre les efforts de paix avec les Kurdes. Les raids visaient des abris, des dépôts et des caves en 6 endroits différents, a précisé le bureau du Premier ministre Ahmet Davutoğlu. Bagdad a dénoncé ce qu'il appelle une escalade dangereuse et un assaut contre la souveraineté de l'Irak. Les États-Unis soutiennent l'offensive de la Turquie contre les djihadistes en Syrie et des cibles kurdes en Irak.
L'épouse de Jonathan Pollard, un espion israélo-américain emprisonné depuis 30 ans aux États-Unis, s'est félicitée mercredi de sa libération prochaine. L'annonce de sa libération a également été saluée par des responsables israéliens et fait la une des quotidiens du pays. Ancienne analyste civile du renseignement pour la marine de guerre américaine, la US Navy, Pollard avait été arrêté en novembre 1985, jugé pour transfert de secrets militaires à l'État hébreu et condamné à perpétuité. Sa libération, prévue le 21 novembre prochain, est interprétée par certains observateurs américains comme un geste conciliant vers Israël qui est contre l'accord nucléaire avec l'Iran, ce que démentent ses avocats et le département d'État.
Au Yémen, les combats, se sont poursuivis ce mercredi dans la partie sud du pays, un jour après l'éclatement de la trêve unilatérale de la coalition. Les loyalistes ont repoussé des rebelles de la zone de Laoum, dans les environs nord d'Aden, avançant encore un peu à l'extérieur de la ville, selon des sources militaires citées par l'AFP. Entre-temps, le gouvernement yéménite, exilé en Arabie saoudite, a ordonné l'intégration au sein des forces armées des résistants combattant les rebelles chiites houthis.
L'ONG Amnesty International a dénoncé la décision du parquet russe de qualifier d'indésirable. L'organisation américaine National Endowment for Democracy, estimant qu'il s'agissait d'une attaque des autorités russes contre la société civile. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
La National Endowment for Democracy, organisation américaine dont le but déclaré est la promotion de la démocratie dans le monde, est devenue mardi la première ONG étrangère à être jugée indésirable en Russie, une décision qui peut entraîner l'interdiction de ses activités, selon l'AFP. Les autorités russes ont frappé encore plus fort alors qu'elles cherchent systématiquement ces dernières années à briser et à détruire la société civile, a regretté dans un communiqué publié mardi soir John Dalussen, en charge de la Russie pour Amnesty International. La décision du parquet russe a été prise en vertu d'une loi promulguée en mai par Vladimir Poutine, le président russe, permettant d'étiqueter des organisations étrangères, entreprises comme ONG, comme indésirables et d'interdire leurs activités dans le pays. Cette loi a été conçue expressément pour entraver la liberté d'expression et d'association, a dénoncé M. Dalussen.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Rencontre à Abidjan pour lutter contre la cherté des manuels scolaires en Afrique. Des experts en éducation et de la Banque mondiale réunis au siège de la BAD ont abordé le problème de pénurie de livres d'école. Un rapport de la Banque mondiale souligne que chaque pays peut avoir accès à des manuels bon marché et de qualité, sous réserve que des mesures soient prises pour réduire leurs coûts, rapporte AbidjanNet. Au Sénégal, l'Association des jeunes entrepreneurs africains pour le développement économique régional a initié un programme de formation pour les enfants intitulé « Graines d'entrepreneurs », indique Presse Afrique. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le JIDER a lancé un projet de colonie de vacances pilote. L'objectif est de sensibiliser aux métiers de l'agriculture, la technologie, l'environnement, arts et lettres, santé et action sociale, commerce, entre autres. Quelques 200 élèves ont répondu à un sondage dans l'espoir d'être tous sélectionnés pour cette formation d'entrepreneuriat. Le Cameroun va investir plus de 178 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'appui au développement de la culture des arbres fruitiers, rapporte l'APA. Le projet vise à augmenter le nombre de vergers dans l'Adamois, le centre, l'extrême nord et le nord. Les agriculteurs qui s'investiront dans ce domaine de production recevront des appuis pour la transformation des produits, l'objectif étant de faire du Cameroun un exportateur de jus de fruits.
Merci Nathalie pour cette Minute Éco.
L'actualité sportive en résumé en studio avec nous Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors sans surprise, Nicolas, Michel Platini veut diriger le football mondial.
Le Français se lance dans la course à la présidence de la FIFA. L'ancien joueur de 60 ans a officialisé sa décision dans une lettre aux 209 fédérations membres de la FIFA. Il y a des moments où vous devez prendre votre destin en main. Je suis arrivé à l'un de ces moments décisifs, a écrit l'ancien triple ballon d'or, ajoutant vouloir rendre à la FIFA sa dignité et la position qu'elle mérite. Empêtrée dans un scandale de corruption, la FIFA élira le 26 février 2016 le successeur de Sepp Blatter et Platini, président de l'UEFA, est vu comme le grand favori.
Cette candidature de Platini a été taclée.
Oui, violemment attaqué par un autre candidat potentiel, le prince Ali bin al-Hussein, qui a dénoncé la culture des arrangements en coulisses. Platini n'est pas bon pour la FIFA. La culture des arrangements en coulisses, en sous-main, doit prendre fin, a estimé le prince Ali, demi-frère du roi Abdallah II, dans un communiqué. On se souvient, chérubin, que le prince jordanien Ali Ben al-Hussein avait été battu par Sepp Blatter lors de l'élection de mai dernier.
Bonne nouvelle pour l'équipe ivoirienne de football.
L'équipe féminine du Zimbabwe, qui ne s'est pas présentée à un match de qualification pour le tournoi olympique des Jeux 2016, a perdu la rencontre par forfait 3-0. C'est ce qu'annonce la FIFA dans un communiqué. Je vous rappelle que les qualifications de la Confédération africaine de football pour les Jeux de Rio 2016 se déroulent en 4 tours. Les deux meilleures équipes se qualifient directement pour le tournoi olympique de football féminin.
Et dans la rubrique transfert,
le milieu international français Abou Diaby, laissé libre par le club anglais d'Arsenal, s'est officiellement engagé avec Marseille. L'OM, qui ne donne aucune précision sur la durée du contrat signé par le joueur, avait déjà annoncé un accord de principe hier avec le milieu qui évoluait à Auxerre avant de fouler les pelouses de Première Ligue. Et puis signataire d'un contrat de 5 ans en faveur du tout-puissant Mazembe, le latéral droit international congolais Issama Mpeko a rejoint ses nouveaux coéquipiers lors de l'entraînement. Issa Mpeko, ancien joueur du Dari Club Motema Pembe, de l'AS Vita Club et du Kabou Sport en Angola.
Enfin, l'Amérique aura bien une ville candidate pour les Jeux Olympiques de 2024.
Oui, le comité olympique des États-Unis s'est engagé à déposer une candidature d'une ville américaine après le retrait cette semaine de Boston. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré à Kuala Lumpur que le comité américain a promis une candidature. Je vous rappelle que la ville du Massachusetts a renoncé lundi à sa candidature aux Jeux d'été 2024, faute d'adhésion populaire à la décision. Le comité américain pourrait désormais choisir Los Angeles. Je vous rappelle que les États-Unis n'ont pas accueilli les Jeux d'été depuis ceux d'Atlanta en 1996 et les Jeux olympiques d'hiver, c'était à Salt Lake City en 2002.
Espérons que les Américains auront plus de chance cette fois-ci. Merci Nicolas Pineau. Cher Robin Dorcil et Claire Morin-Gibourg, en votre compagnie, dossier du jour. D'abord, la visite du président nigérian au Cameroun.
Tout comme lors de son passage à Niamey au Niger et N'Djamena au Tchad, le leader nigérian compte discuter de la coopération régionale dans la lutte contre les militants islamistes de Boko Haram. Pour un éclairage sur la dimension camerounaise de ce dossier, Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Eric Mathias Owana Guini de l'université Yaoundé 2.
Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Disons tout d'abord qu'au Niger, le Parlement vient de procéder à la levée de l'immunité d'un député. Il s'agit du président du groupe parlementaire du parti de l'ancien président de l'institution, Ama Amadou. Bakary Seydou sera entendu dans le cadre d'une affaire survenue lorsqu'il était responsable de la cellule chargée de la gestion des crises alimentaires dans le pays. Cela remonte à 2005. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est à l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale que l'immunité du député Bakary Seydou, président du groupe parlementaire du Modèle Lumana Africa, parti de Ama Amadou, a été levée. Le gouvernement a introduit cette requête en début du mois de juillet pour qu'une fois l'immunité du député levée, les enquêteurs puissent l'écouter dans le cadre d'une affaire de marché attribué et non livré lorsqu'il était responsable de la cellule chargée de la gestion des crises alimentaires. Le concerné revient sur cette affaire.
Il ne peut pas y avoir de non livraison dans la mesure où les documents attestant que la livraison a été faite sont bel et bien disponibles au niveau de la cellule crise alimentaire. Le certificat de conformité de l'ACM est aussi dans le dossier. Et c'est l'ensemble de ces pièces qui constituent l'élément clé de paiement. Et les paiements ont été bel et bien autorisés par les partenaires au développement. L'investigation réalisée par la gendarmerie, qui est partie fouiller dans les livres de l'OPVN, le résultat de cette investigation qui est disponible au niveau du parquet a clairement montré qu'il n'y a aucune responsabilité et que les vivres ont été bel et bien livrés.
Pour le député Bakary Seydou, c'est une machination qui s'inscrit dans le cadre de la cabale du régime actuel contre les responsables de leur formation politique depuis qu'elle s'est retirée de la mouvance présidentielle en 2013.
On revient sur un dossier qui est sans fondement pour des raisons politiques que nous savons. Parce que nous sommes à l'approche des élections, les gens sont dans une logique d'éliminer des candidats. Alors, nous avons confiance en notre justice, nous avons confiance en Dieu, nous n'avons peur de rien. Et je suis prêt à pouvoir répondre à n'importe quel moment à une interrogation de la justice pour que la lumière soit faite sur ce dossier, pour que les gens ne puissent pas interpréter d'une autre manière un dossier qui est limpide comme de l'eau.
C'est la deuxième fois que le bureau de l'Assemblée nationale et non la plénière procède à la levée de l'immunité d'un député national. La première fois, c'était celle de l'ancien président de l'institution, Ama Amadou, dans le cadre de l'affaire dite des bébés importés. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Et nous revenons, comme nous vous le disions il y a quelques minutes, sur la visite du président Muhammadu Buhari au Cameroun. L'analyse et l'éclairage donc de la dimension camerounaise de ce déplacement. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Eric Mathias Owana Guini de l'université Yaoundé 2.
Il s'agit pour le nouveau leader nigérian de discuter directement avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, de manière à évaluer l'ensemble des relations Cameroun-Nigéria. Bien entendu, l'un des points intéressants qui sera particulièrement suivi est ce que les deux chefs d'État vont dire de leur vision de la crise sécuritaire attachée à l'action de Boko Haram dans le contour du lac Tchad et de la manière dont les deux pays associés au Tchad et au Niger pourraient coopérer pour lutter contre ce phénomène d'insécurité.
Jusqu'ici, les soldats camerounais sont contraints de se limiter à opérer sur leur territoire national contre Boko Haram. Qu'est-ce que le Cameroun attend de ce côté?
Je pense que le Cameroun attend surtout une intensification des échanges d'informations et de renseignements et peut-être un accord autour de mécanismes de coordination qui pourraient favoriser une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Le point spécifique du droit de poursuite est un point très controversé parce que le Nigeria, sous le président Goodluck Jonathan, avait sollicité du Cameroun un droit de poursuite qui lui avait été refusé, ce qui faisait que quand Boko Haram a commencé à agir contre le Cameroun, il était extrêmement difficile pour les autorités camerounaises de demander au Nigeria de leur accorder un droit de poursuite qu'elles avaient refusé à celui-ci.
Pensez-vous, professeur, que cette visite permettra de dissiper ce malaise entre Yaoundé et Abuja, un malaise qui date du conflit frontalier de Bakassi?
En fait, même s'il y a eu la crise de Bakassi, il y avait sous le président Olusegun Obasanjo une amélioration significative des relations entre le Cameroun et le Nigeria. C'est d'ailleurs grâce à cet apaisement qu'on a pu obtenir les accords de Green Tree en 2006 qui sont venus compléter au plan politique le règlement juridictionnel de la crise Cameroun-Nigeria autour de Bakassi. Et les deux pays ont toujours entretenu des contacts directs, notamment à travers la commission conjointe qui s'occupe de la démarcation des frontières entre les deux pays. Il n'y a pas un malaise structurant. Il y a simplement eu peut-être des problèmes d'humeur entre les présidents Paul Biya et Goodluck Jonathan.
Le professeur Eric Mathias Owana-Guini de l'université Yaoundé 2.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
12 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement gabonais va désormais verser chaque mois aux 90 000 agents publics. La mesure fait partie d'une réforme des salaires décidée par le président Ali Bongo Ondimba. Le salaire moyen de fonctionnaire gabonais de la plus petite catégorie est passé de 80 000 à 150 000 francs CFA. Reportage à Libreville de notre correspondant Jean-Rovis Damani.
Écran plat, parabole satellite, ordinateur portable, l'intérieur de la maison de Sylvestre Tengue est loin de clichés véhiculeux sur le Gabon. Son emploi dans la fonction publique ne permet pas au jeune homme de 37 ans de joindre le deux bouts. Il ne fait donc pas partie des classes les plus aisées du Gabon. Avec un salaire de base avoisinant de 200 000 francs CFA par mois, Sylvestre Tengue fait partie des 90 000 fonctionnaires qui ont bénéficié depuis la semaine dernière d'une augmentation de salaire de 30%.
J'ai été au guichet cette fin de mois et nous avons constaté une légère augmentation. Est-ce que cela satisfait réellement les attentes des Gabonais, dans la mesure où le bailleur là-bas va augmenter son loyer et les prix des produits alimentaires vont également être augmentés. Donc c'est la question que l'on se pose. On attendait beaucoup, mais bien que ça, il y a eu une légère augmentation. Certainement ils vont revoir ça après.
La réforme des salaires est en débat depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, qui souhaitait assurer un revenu suffisant aux fonctionnaires. Et pour Jean-Marie Ogandanga, le ministre de la fonction publique, ce système répond, je cite, à une nécessité impérieuse.
Lorsqu'il dit qu'il veut une fonction plus équitable, c'est qu'il savait qu'il y avait une iniquité quelque part. Or, lui, c'est le président de tout le monde qui veut que tout le monde trouve son compte à travers son travail.
Son collègue du budget, Christian Magnanian, s'étaque d'avoir réalisé un pari.
On traduit ici la haute instruction du chef de l'État qui veut que les Gabonais, évidemment, se sentent mieux, que les Gabonais soient heureux, notamment les fonctionnaires. Il s'agit bien sûr de veiller à ce que les 30% en moyenne d'augmentation que l'État vient d'accorder en termes d'augmentation des salaires aux agents publics, évidemment que cet avantage soit préservé.
L'ancien régime de paye, vieux de 40 ans, est la cause des nombreuses contestations dans ce pays d'Afrique centrale où, selon la Banque mondiale, 33% des 1 800 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cette année, la masse salariale sera plafonnée à 624 milliards de francs CFA et profitera à 90 000 agents de l'État contre 480 milliards de francs CFA l'année dernière. Certains observateurs considèrent déjà qu'il s'agit d'un message adressé aux Gabonais en prévision de l'élection présidentielle de 2016. Faux, répond un proche d'Ali Bongo contacté par VU Afrique. Alors que la réforme fait l'objet d'un projet de loi qui sera présenté au Parlement dans les tout prochains jours, les syndicats, eux, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Libreville, Jean-Revis Dabani, VU Afrique.
VOA Afrique est écoutée à Libreville sur la radio Génération Nouvelle 97.4 FM.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au voyage de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie. Le président américain a mis l'accent sur l'économie et la lutte contre le terrorisme. Qu'avez-vous pensé de ce voyage de Barack Obama? Venez en débattre sur notre page Facebook. Et rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Venons-en maintenant au discours historique que le président Barack Obama a prononcé ce mardi devant la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. À la tribune de l'Union africaine, le président américain s'est montré très acerbe à l'égard des dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir en dépit des limitations constitutionnelles. Personne ne devrait être président à vie, a notamment martelé Barack Obama. Comment ce discours a-t-il été accueilli sur le continent? Pour le journal L'Observateur, Paalga, à Ouagadougou, il s'agissait d'une piqûre de rappel, comme nous l'explique Alain Zongo, l'éditorialiste du journal.
Dans notre édition de jeudi, effectivement, nous avons intitulé ça « Piqûre de rappel au tripotier de constitution ». En référence au premier discours que Obama a eu à prononcer lors de son voyage à Accra en 2009, où il a déclaré que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, en mettant en garde les chefs d'État contre les tripatouillages, les réformes rétrogrades, comme ceux qui le font, afin de pouvoir durer et perdurer au pouvoir.
Alors, si vous parlez de rappel, est-ce que les dirigeants africains n'écoutent pas?
Oui, bon, c'est pas qu'ils n'écoutent pas, ils écoutent, ils entendent, mais ce qui est sûr, de tels discours ne prospèrent pas et sous bien de palais présidentiels en Afrique. On a vu depuis 2009 que ce discours a été prononcé. On a vu un peu partout des chefs d'État qui ont continué à modifier leur constitution. La preuve, je vais prendre un premier exemple, c'est chez nous au Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré, contre vraiment les mises en garde de l'opposition, de la société civile, de la communauté internationale, a tenté vaille que vaille pour modifier, pour faire sauter le verrou constitutionnel. Mais malheureusement, mal lui en est pris, et on sait maintenant aujourd'hui ce qu'il en est devenu. Malgré l'expérience malheureuse de Blaise Compaoré, on a toujours des chefs d'État qui continue toujours sur cette lancée aventureuse. On peut citer pêle-mêle le Congolais Kabila, il y a le Rwandais Paul Kagame, il y a l'autre Congolais Sassou Nguesso et le Burundais Pierre Nkurunziza, qui, malgré tous ces rappels-là, continuent de tripatouiller leur constitution.
Alors, on peut imaginer que ce discours a été apprécié diversement, que l'on soit au pouvoir ou au niveau de la société civile.
Surtout la société civile ne fait qu'applaudir, puisque quoi qu'on dise, c'est surtout la société civile qui est à l'avant-garde de cette lutte contre les tripatouilleurs, plus dans une certaine mesure les partis de l'opposition, mais de façon générale, c'est toute la jeunesse africaine. C'est toute la jeunesse africaine vraiment, qui a applaudi à tout rompre suite à ce discours de Obama. Mais bien sûr, il y a certains pouvoirs, c'est sûr que ça fait siffler des oreilles. Il y a certains chefs d'État, effectivement, qui se disent que de tels discours, ça n'engage que celui qui les prononce. Voilà.
Alain Robespierre Zongo, du journal L'Observateur Paalga. Il était joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Et cette édition touche à sa fin. On remercie Michel Joseph et Micha Dubinski à la régie, à la présentation.
Claire Morin-Gibourg. et Chérubin d'Orsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.